Jean Vilain vous présente ses nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles ?
Nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles.
Nouvelles vilaines. Nouvelles vilaines. Vilaines nouvelles. Nouvelles vilaines. Des histoires. Eh bien, bonjour. Cette fois encore, ça va être des textes d'un auteur que vous connaissez bien, puisqu'il s'appelle Jean Vilain. Avec un premier texte dont le titre est « La génération Bigoudi ». Ami, ami homme, hume le vent de la libération. Nous aussi, nous avons au moins sur un point bénéficié du mouvement de libération mené par nos compagnes. Certes, sur d'autres plans, nombreux, on ne peut pas dire que nous y avons gagné. Mais il faut savoir se contenter de peu et, avant d'être définitivement réduit en esclavage, apprécier pleinement le moindre avantage de notre nouvelle condition. Car oui, l'homme, ce roseau penchant, tantôt à droite, tantôt à gauche et même des fois au milieu, l'homme qui a domestiqué le loup, le roc, le cheval, le sanglier, la chèvre et la brebis, ce qui n'est pas rien, cet homme qui a bâti et abattu les cathédrales, qui a détruit Troie et Carthage, qui inventa la télévision et le lait en poudre, la sécurité sociale et la pêche Melba, le moteur à explosion et la capote anglaise, un tas de choses inutiles et je ne sais quoi encore, cet homme est un aliéné. L'homme, ce héros de la conquête du savoir, n'est rien sans la femme. Loin de la soumettre, comme on l'a frauduleusement prétendu les soi-disant mouvements de libération de la femme, l'homme, ce vermisseau, n'est qu'un jouet dans les mains de sa compagne. Que n'a-t-il subi au cours des époques de notre histoire ? De la robe à cerceau, au corset. Ouais, les corsets, rien que ces derniers mériteraient un chapitre. Songez à ce que devait endurer l'homme quand, après deux bonnes heures de délassage, il voyait se répandre les chers flasques que maintenait en des formes idylliques le dit corset. Mais là n'est pas notre sujet. Nous allons remonter dans le temps et revenir à une époque dont vous et moi avons vécu la disparition. Cette époque des débuts du frigidaire et de la machine à laver. À cette époque, seul Moulinex libérait la femme. Vizir et sa vizirette n'étaient pas encore passés par là. Gisèle Halimi non plus. La femme était à la maison et se coltinait les courses, la cuisine, le ménage, la lessive, le raccommodage, les gosses, et passait le reste du temps à se goberger, voire à ne rien faire. L'homme, lui, travaillait durement de ses mains, en général, avec sa tête de temps en temps et avec sa queue quand il était gigolo. L'usine ou le bureau avait remplacé le roc et le bison, mais on faisait encore sa toilette en grand qu'une fois par semaine dans le meilleur des cas. C'était l'époque où le paysan avait 26 chemises, une par semaine, pour satisfaire aux deux lessives annuelles. Oh, je parle là, bien sûr, du riche paysan, le pauvre paysan pouvant aller à n'en avoir que deux, voire une seule en cas d'extrême pauvreté. Mais tout ceci n'est pas bien drôle et nous éloigne un tant soit peu de notre sujet. On se lavait peu, mais on faisait une grande consommation d'eau de Cologne et les dames de poudre, de rouge à lèvres, de vernis ou d'autres cache-misères. On n'en était plus à la perruque. On avait inventé pire. Le bigoudi. On avait inventé là le tue-l'amour par excellence. S'il pouvait encore paraître drôle et aventureux de découper les arceaux d'une robe à panier au chalumeau au dragueur bricoleur du XVIIe siècle, si le décorsetteur pouvait se vanter d'avoir résisté à l'éjaculation précoce quand il arrivait à la fin de ses fins et calmait enfin sa faim, que dire de l'homme de la génération bigoudi ? Certes, la perruque n'avait pas que des avantages. Parure à classer dans la même catégorie que le corset ou la robe à panier. On ne savait jamais ce qu'on allait trouver dessous. Mais au moins, on pouvait s'en débarrasser par simple arrachage. Arrachage, certes indélicat, mais combien pratique. Pour la petite histoire, notons que la perruque a été inventée pour mettre fin à la coutume qui consistait à ce que l'homme tire sa compagne par les cheveux pour la traîner sauvagement jusqu'à la couche nuptiale. Avec cet accessoire, cette pratique devenant impossible, elle devint donc obsolète. D'où, pour nos compagnes, l'avantage de garder leurs vêtements en bon état, car ce traînage usait considérablement les tissus frottant au sol. Nous aurions pu, alors, tirer de cette nouvelle pratique l'avantage de devoir acheter moins de vêtements. En réalité, il n'en fut rien, et nos porte-monnaies ne virent aucune différence. Mais revenons au bigoudi. Cette pratique qui consiste à enrouler une mèche de cheveux autour d'une tige ou d'un rouleau pour la faire friser, est la réplique exacte de ce qui se passait avec les perruques. À la différence près que la perruque passait la nuit bigoudité, c'est un mot facile à dire ça, sur son reposoir, alors que la tête de Bobonne est calée sur l'oreiller à côté du vôtre. Et ça change tout. Certes, du temps de la perruque, on pouvait avoir parfois une triste surprise en découvrant la tête de la dame qui était à côté de vous dans le lit, mais un oreiller posé délicatement sur le visage de votre camarade de galipette suffisait à résoudre le problème. Tandis que le bigoudi induit d'autres pratiques que nous allons relater ici pour montrer combien nous avons gagné, hommes que nous sommes, à sa disparition. Imaginons l'homme rentrant de son dur travail. Toute la journée, il a dû supporter ses camarades de labeur. Toute la journée, il a sué à la tâche. Le contremaître est là, attentif à faire suer le burnou. C'est à peine si l'homme peut interrompre son effort le temps de s'abreuver. J'en veux que pour preuve que certains jours, il doit remporter avec lui une ou deux des 12 litres de vin dont il avait pris la précaution de se munir comme tous les matins. Ces soirs-là, il lui faut accomplir une heure supplémentaire afin de venir au bout de ce surplus. Quand il rentre enfin chez lui, après son arrêt quotidien au « tout va bien » ou un autre bistrot, où pour se décontracter il boit quelques verres et ose une partie ou deux de 4,21, c'est pour se mettre à table, manger la soupe et raconter sa journée. « Oh ben, qu'est-ce que tu veux qu'il me soit arrivé ? J'ai gratté, voilà tout !» Bien sûr, il ne parle pas de cette pause imprévue quand la secrétaire de M. Marcel, le fils du patron, est passée dans l'atelier. Tous les yeux se sont tournés vers elle et il brillait, hein, ses yeux. Mais Germaine, elle n'a pas besoin de savoir ça. Germaine, elle a fini de débarrasser la table et, comme tous les soirs, elle met ses bigoudis. Lui, l'homme, pendant ce temps, il fait semblant de lire son journal tout en rêvassant sur les jambes de la secrétaire de M. Marcel. Germaine met un temps fou à les mettre, ses bigoudis. Un coup, la mèche est en biais, un coup trop haute, un coup pas assez serré, et puis j'en passe. Quand elle a fini, elle ressemble vaguement à un porc-épic avec toutes ses épingles à cheveux qui dépassent dans tous les sens. Et c'est ensuite le moment du filet dont elle emballe le tout. Quand elle est enfin au lit, elle pose une fois pour toutes la tête sur l'oreiller et tous ses efforts consisteront à ne pas faire un mouvement pour ne pas déranger l'édifice. Inutile de dire que la moindre tentative de l'homme d'établir le minimum de contact nécessaire à la réalisation du devoir conjugal ne peut être vouée qu'à un...
« Oh, mais qui pense pas ? Mes bigoudis !»
Et quand Germaine, exceptionnellement, ressent les affres du printemps, l'homme perce la raideur nécessaire quand il s'imagine rendre hommage à Madame Hérisson dans la position de la levrette.
D'où le succès grandissant de la télévision qui venait de naître.
Bien sûr, c'était étude n'est en aucun cas exhaustive, mais le but est de vous faire comprendre ce à quoi nous avons échappé en ne vivant pas à cette époque. Ah, comme vous le savez, nous vivons dans une région touristique. Nous sommes quasiment les champions du monde du tourisme vert. Aussi ai-je fait une grande étude sur les touristes. Et ce texte s'appelle donc très originalement « Les touristes ». En cette belle matinée d'avril, il fait beau. C'est d'ailleurs ce qui fait que c'est une belle matinée, parce qu'en dehors du beau temps, c'est une matinée comme les autres. Bref, je me serais contenté d'écrire « En cette belle matinée d'avril », ça suffisait. Les hirondelles reviennent, et les touristes aussi. Si, si. J'en ai vu un couple hier à la terrasse où je me suis posé le temps de boire un ou deux demi et d'observer la faune locale. Or, il vous faut savoir que dans les perspectives européennes, notre beau pays est promis à la spécialité de zone touristique. J'ai personnellement la chance de vivre dans la plus connue des villes françaises, hormis Paris. La ville connue pour sa lutte homérique contre l'implantation d'un camp militaire, son viaduc, son démontage de McDo, son mondial de pétanque, sa lutte contre les OGM et à peu près tout contre tout en général. Bref,
Je suis super bien placé pour donner quelques conseils en ce domaine à les miens compatriotes. Oui, c'est une formule pour nous habituer à nous faire entendre des Anglais. Les miens compatriotes qui n'ont pas la chance d'avoir pu étudier suffisamment le touriste en milieu naturel. Tout d'abord, il faut savoir que le touriste type n'existe pas. Ou plutôt, disons qu'il existe plusieurs catégories de touristes. Par nationalité, bien sûr, mais également par pôle d'intérêt, niveau social et culturel, âge et j'en passe. Bien sûr, nous ne pouvons pas faire une étude exhaustive du touriste. Néanmoins, nous vous parlerons de toutes les catégories dont la connaissance est de la plus grande importance compte tenu de leur universalité. D'abord, le touriste idéal. Ah, cette catégorie n'est hélas qu'un doux rêve. Il consisterait en un touriste riche qui enverrait, par recommandé ou virement, le montant des dépenses qu'il aurait faites s'il était venu, mais qui ne viendrait pas vous déranger dans votre sieste, et qui, bien sûr, ne demanderait en aucun cas le remboursement des prestations que vous auriez dû lui fournir. Autre catégorie que nous rencontrons souvent, c'est le touriste senior. Il y a encore quelques années, cette catégorie de touristes était qualifiée de sortie de club de vieux, ou d'escapade du troisième âge, ou d'autres qualificatifs tout aussi vexants pour de vénérables rentiers, de jeunes retraités, ou d'anciens footballeurs, architectes, ou tout ce que vous voulez, ou des anciennes maîtresses d'école ou non, secrétaires particulières, ou toute fonction féminine. Dorénavant, le senior... Et ici, le terme « senior » est employé dans le même sens que le mot « homme hein, », lequel peut très bien être une femme sans pour autant avoir une sexualité déviante. Donc, le « senior », donc, est en pleine possession de ses moyens, même si ceux-ci ne sont que financiers, et il se balade à travers le monde, ce dont nous le foutons royalement, et plus spécialement en France, donc chez nous. Il peut se déplacer en car, la sortie annuelle de l'ex-club du troisième âge par exemple, et dans ce cas, vous serez confronté au groupe qui, comme tous les groupes de plus de quatre, est une bande de... ainsi que nous le chantait Brassens. Le groupe a ceci d'impressionnant que quand le joyeux animateur les déverse sur le bord du trottoir et leur donne rendez-vous 2 heures plus tard au café d'en face, tout le monde trouve ça très bien. Mais que quand, après s'être perdu 3 fois dans les petites rues, à admirer la devanture du charcutier, s'être pour certains attrapé un torticolis en essayant d'apercevoir le haut du beffroi, ils arrivent harassés au bistrot en question et qu'il s'agit de remonter dans l'écart sans même avoir pu boire un coup si on veut tenir le planning qui consiste en un repas saucisse à l'égout, fromage ou dessert, boisson en plus avant la soirée folklorique de bourrée auvergnale, eh ben le groupe râle. Et les vieux seniors en groupe râlent bien plus fort que n'importe qui, parce que les vieux seniors, ils méritent le respect donc d'un petit bonhomme. Hein ? On n'a pas fait 68 pour rien. Et quant à celle qui râle pour de bon, eh ben on la laissera à l'hôpital au passage. Mais depuis l'époque héroïque des congés payés, il s'en est passé des choses. Et de nos jours, nombre de vieux seniors osent voyager en solitaire ou en couple. Enfin, ce qui revient à peu près au même, hein, sauf pour celui ou celle qui suit. Lorsqu'il est mal et solitaire, le touriste senior possède en général un compte en banque digne de ce nom et une voiture type Morgan années 70 ou Porsche 911, au volant de laquelle il pourra faire illusion, même avec le limbago qui le cloue au volant depuis le début de la semaine. Ouais, ça c'était quand il a voulu montrer à cette petite blonde comment il fallait danser le rock, mais bon. La touriste senior, elle, va plutôt visiter les Cubains qui dansent si bien la salsa, enfin si son compte en banque lui permet. Hein. Le couple de touristes seniors a fortement tendance, depuis quelques années, à se déplacer en camping-car. Ouais. Ce qui, outre l'avantage de lui faire faire quelques économies dont profiteront nos commerçants, est une source d'amusement quotidien pour l'autochtone au moment du créneau du dit camping-car. Le touriste senior va au restaurant aussi souvent que ses finances et son régime le lui permettent et mange sans rechigner un cassoulet en plein mois de juillet par une température de 36 degrés à l'ombre. Il visite les caves où il se fournit de provisions pour l'hiver. C'est un grand connaisseur de cartes postales, surtout quand il a été à la tête d'une famille nombreuse et qu'il s'agit d'assurer à ses 8 enfants et ses 24 petits-enfants qu'il est bien arrivé et que l'aligot ne ressemble à rien à la purée. Quoique cette coutume devienne un tantinet caduque depuis l'invention du SMS et des photos transportables par téléphone portable. En général, le touriste senior se répand sur le territoire entre les mois d'avril à juin et de septembre à la Toussaint, à cause des tarifs et surtout pour ne pas avoir à supporter les mômes des autres. Et ils ont assez donné en leur temps. Hein. Sauf, bien sûr, le touriste au limbago de tout à l'heure qui lui recherche plus volontiers les mois où les jeunes femmes sortent en short ou en mini-jupe. Ah, nous avons aussi le touriste culturel. Le touriste culturel se divise en deux sous-catégories que l'on qualifiera de cultureuse pour la première et de patrimonique pour la deuxième. Bien entendu, certains touristes culturels relèvent des deux sous-catégories à la fois. Il y a aussi des sous-catégories, à savoir le touriste cultureux aisé et le touriste cultureux fauché, et le touriste patrimonique aisé et le touriste patrimonique fauché. Le touriste cultureux aisé fréquente plus particulièrement les supermarchés de la culture. Avignon, Orange, Marciac, où il faut être vu et où il va faire son marché, enfin c'est-à-dire choisir les spectacles dont il fera tout pour qu'ils soient programmés par l'association de spectateurs dont il est le président ou membre actif. Oh, il peut parfois s'égarer dans un petit festival, si toutefois la programmation est à la hauteur de son niveau intellectuel. En grande majorité, le touriste cultureux, aisé, est professeur de français ou ancien professeur de français. Sa connaissance du spectacle est telle qu'il ose, sans le moindre complexe, expliquer à un professionnel du spectacle qui a 30 ans d'expérience ce qu'il conviendrait de faire pour que ce merveilleux spectacle soit parfait. Il peut également, si par hasard il est professeur de musique, vous jouer au pipeau le sublime solo de Miles Davis dans Ascenseur pour l'échafaud, mais beaucoup mieux que le trompettiste, parce que lui, il sait ce que c'est que la musique. Bon, il a un peu de mal à justifier certaines de ses fausses notes, mais c'est un détail sans importance. Le touriste cultureux aisé ne se fait pas remarquer par sa tenue vestimentaire, mais par ce port de tête si particulier dont la signification sans équivoque est que vous êtes un inculte qui a bien de la chance de le connaître. Le touriste cultureux fauché aimerait bien lui aussi aller à Avignon, en Orange, à Marciac, mais c'est pas dans ses moyens. Le touriste patrimonique aisé. Ah, ainsi que son nom l'indique, ce touriste s'intéresse de très près à son patrimoine, et c'est pour ça qu'il est aisé. Et au patrimoine, à savoir nos trésors architecturaux, qu'ils soient historiques, religieux, folkloriques ou même inventés de toutes pièces. Il réside souvent dans les relais châteaux. Il passe des heures dans la cathédrale d'Albi à lire dans son guide Michelin la description détaillée de la visite de celle de Béziers qu'il visitera demain. Il visite tout monument pourvu d'un parking, même payant. Viollet-le-Duc est son idole et aucun des spectacles historico-artistico-fabulo-merdiques qui sont à la mode depuis quelques années ne lui ont échappé. Il va de ville en ville, de ruine en ruine, de table en table, la tête dans ses guides, prévoyant sa journée de demain au lieu de vivre celle du jour. Le touriste patrimonique fauché, cette catégorie est en voie de disparition, la plupart des monuments de nos jours ne pouvant être visités que contre un droit de péage. Le prieuré de Serrabonne, par exemple, niché en pleine corbière, dont il suffisait de se procurer la clé auprès d'un vague gardien, est maintenant pourvu d'une caisse. Et même, s'il trouve dans les environs quelques vieilles pierres à se mettre sous les yeux, étant fauché, il ne peut se permettre de changer de ville, de région autant qu'il le souhaiterait. Il doit se contenter, pour la quatrième fois du mois, d'assister à la démonstration de bourrée auvergnate par les attardés locaux. Autre catégorie de touristes, le touriste campeur. Le touriste campeur peut lui aussi être sous-catégorié. Les deux principaux sous-groupes seront le touriste campeur jeune et le touriste campeur familial. Alors tout d'abord, le touriste campeur jeune. Mais ça, c'est presque un pléonasme. Essayez de passer une nuit sous une tente allongée sur un soi-disant matelas et le lendemain, vous comprendrez pourquoi. Enfin, toujours est-il que la particularité du tourisme campeur jeune est d'être fortement attiré par le bruit, principalement quand ce bruit provient d'instruments de musique. Lorsque le bruit ambiant n'atteint pas le nombre de décibels compatible avec les conditions de vie nécessaires aux touristes campeurs jeunes, celui-ci se charge lui-même de remédier à cet état de fait. Regroupés en essaim, les touristes campeurs jeunes se mettent à communiquer en poussant des hurlements de plus en plus bruyants. Et certaines fois, ils se regroupent autour de l'un d'entre eux, munis d'une guitare, et ils poussent alors des cris affreux. Le touriste campeur jeune vit principalement la nuit. En général, il fait une apparition en ville, principalement aux terrasses des cafés, avant de se rendre en boîte pour finir de se bourrer la gueule, tout en s'agitant au rythme des vibrations saturées des membranes des haut-parleurs de la dite boîte. Boîte dont il sort à l'aube en titubant, convaincu d'avoir passé une excellente soirée. Le touriste campeur jeune devient parfois un touriste campeur en voie de reproduction, ce qui normalement nous amène la venue d'un couple de campeurs familiaux l'année suivante. Le touriste campeur familial. Alors, comme son nom l'indique clairement, le touriste campeur familial vit en couple et est accompagné de sa progéniture. Celle-ci est d'un âge allant du touriste nourrisson à environ 14 ans, parce que les individus atteignant cet âge vivent plus particulièrement en compagnie de touristes campeurs jeunes. Le touriste campeur familial est heureux d'être en vacances et il le fait savoir. Tout d'abord par sa parure. Celle-ci consiste en un short de taille respectable, d'un t-shirt portant une devise d'un bon goût esquis genre « plus beau que moi, tu meurs ». La plupart du temps, il est chaussé de sandales ou de baskets fortement colorées. La tête est souvent couverte par une casquette publicitaire du plus bel effet. Cette tenue est également valable à quelques détails près pour l'ensemble de la famille. On remarquera que le short des éléments féminins sont considérablement plus courts et plus collants que ceux des éléments masculins. Il peut arriver aussi que les femelles portent en certaines circonstances des jupes. Celles-ci sont alors plus ou moins longues ou plus fréquemment plus ou moins courtes. En général, elles revêtent cette tenue à l'occasion du 14 juillet ou des autres manifestations gratuites que la ville organise dans le but évident d'empêcher les autochtones de dormir. Ah, j'allais oublier. Il est de règle que l'un des deux éléments adultes porte, attaché autour du cou, un appareil photo. Cette coutume tend à tomber en désuétude pour être remplacée par le téléphone à tout faire dont presque chaque membre du groupe est pourvu. Les enfants sont particulièrement agités en général et bruyants en particulier, braillements divers et variés, pleurs rageurs, hurlements revendicateurs, tout y passe et enclenche inexorablement une nette montée de tension dans l'atmosphère, souvent suivie d'un bruit de gifle et aussi soudain que brutal. Après quoi, les pleurs et les cris reprennent de plus belle. Je vous conseille fortement d'éviter cette catégorie de touristes lorsque vous souhaitez emmener votre dernière conquête au restaurant. Alors, il y a aussi une espèce plus rare, c'est le touriste en voie de divorce. Alors, ce type de touriste voyage en couple, étant donné que ses vacances sont l'ultime tentative de réconciliation après quelques années de mariage et avant un plus que probable divorce. Cette durée pouvant varier de 1 à quelque chose comme 80 ans, dont un sacré nombre d'années consacrées aux engueulades, bouderies et aux joyeusetés de la vie de couple. Inutile que de vous dire que l'ambiance est au beau fixe. Les vacances du touriste en voie de divorce sont émaillées de repas au restaurant. Ah bah oui. On va pas être mesquin hein, quand on cherche à reconquérir le cœur de l'amour de sa vie. La particularité de ces repas, c'est que les regards de notre couple de touristes en voie de divorce se fuient avec une constance qui force l'admiration. La plupart du temps, les deux membres de notre couple mangent avec obstination, comme s'ils avaient faim. Certains s'y potent dans leur assiette en regardant au loin si le cadre s'y prête ou la pointe de leur godasse si ce putain de resto est situé face à un mur. D'autres téléphonent, chacun de leur côté de table, l'un la tête tournée vers la droite, l'autre vers la gauche. Ils parlent dans leur téléphone afin de pouvoir communiquer avec quelqu'un. Je ne vous parlerai pas de la tête que fait celui des deux qui a accepté de visiter le musée consacré à l'aiguille à tricoter à travers les âges pour faire plaisir à son conjoint, ou bien de participer au concours de pêche du 14 juillet pour la même raison. 14 juillet, qui les verra la nuit tombante assister au traditionnel feu d'artifice. Où on pourra entendre ce dialogue. Lui, la prenant par la taille. « C'est beau, hein ?» Elle. « Oh ben si j'attrape un rhume,
ce sera ta faute. Passe-moi plutôt ta veste, ce sera plus utile.
Ah oui, de temps en temps, ils se parlent. Ils tiennent même alors ce genre de dialogue, lui.
Mais qu'est-ce qui se passe? Tu souris?
Elle. Oh rien, je pensais à autre chose.
Bien décidé à la réconciliation, ils prennent soin l'un de l'autre.
Lui.
Je mangerai bien une glace.
Elle.
Oh, t'y penses pas? Et ton cholestérol alors?
À moins que ce soit une phrase du genre elle.
Oh, je mangerai bien une glace.
Lui.
T'y penses pas? Et ton régime alors?
En gros, ils font preuve de tant d'imagination dans le dialogue que le seul service que vous pourriez leur rendre, ce serait de piquer leur bagnole afin qu'ils aient enfin un sujet de conversation commun. Enfin, l'avantage du touriste en voie de divorce, c'est qu'il revient rarement l'année prochaine.
Et alors, dans notre belle région, nous avons aussi le touriste sportif. Alors, vous pensez bien que le sport, qui regroupe 28 disciplines aux Jeux Olympiques d'été, fournit un sacré gros pourcentage de touristes sportifs à notre belle région. Sauf la mer et les terrains plats, nous avons absolument tout ici pour satisfaire le touriste sportif. Des rivières, des falaises, des sentiers, des marchands de vélos et de parapentes, des médecins du sport, un hôpital et même des assureurs. Le touriste sportif est un touriste propre. Enfin, je veux pas dire par là que le touriste sportif ne pue pas la sueur, non, loin de là. Mais ce n'est pas lui que vous verrez chercher le planchichon. Il est pas fou, il envoie ses copains. Et puis, il se drogue pas, lui. Il se contente de prendre certaines vitamines et de se shooter aux endomorphines. L'avantage, c'est que le tourisme sportif mange énormément. Énormément. Certains sports demandent des régimes particuliers, certes, mais en quantité. Tiens, quand le touriste sportif qui vient participer à notre mondial, enfin j'ai nommé le touriste sportif pétanqueur, il mange de tout, deux fois, et il boit en quantité, en quantité tellement grande que je me suis demandé à un moment si j'allais pas investir ma maigre pension dans des actions de chez Pernod Ricard. C'est vous dire. À part le touriste pétanqueur et le touriste randonneur, qui peuvent être de tous les âges, le touriste sportif est relativement jeune et fait tout pour le rester ou il fait semblant. Il se conduit donc généralement comme le touriste campeur jeune, c'est-à-dire que lui aussi fréquente les boîtes, ce qui lui permet de dormir comme les chauves-souris, la tête en bas, le lendemain, s'il fait partie des touristes grimpeurs. Contrairement aux parapentistes, qui, quand il se réveille en sursaut, peut contempler les environs du paysage dans lequel il va se casser la gueule, le grimpeur ne peut voir qu'une falaise. Or, rien ne ressemble plus à une falaise qu'une autre falaise. Mais un grimpeur digne de ce nom vous reconnaîtra dans un panel de photos de falaises un Étretat 2001 d'une falaise Gorge de la Jonte 2004. Ne lui demandez pas si à Étretat il avait la mer dans le dos, ça il sait pas, il a pas vu. Mais la falaise, oui, il la connaît par cœur. Le randonneur randonne, à pied ou en VTT. Son truc, c'est de voir la région en soin comme une vache. Les uns sur les sentiers que les chèvres et autres chamois ont tracés dans le paysage, les autres sur des rivières de goudron fondu en plein cagnard à 14 heures, il sue. Les touristes sportifs s'entraînent à un point que c'est beau à voir. Il n'est pas rare de voir un touriste sportif parachutiste prendre, à la demande d'un grimpeur de falaise, une photo de celui-ci en train de se meurtrir les genoux, les coudes, les mains, en essayant de s'élever le long de la paroi. J'ai même vu un de ces touristes parapentistes servir de cible à un fan de baltrap autochtone. Hein. C'est vous dire. À part le pétanqueur, qui doit, pour des raisons tenant à son régime sportif, culver l'apéro du midi avant de rejoindre ses compagnons pour une petite partie avant l'apéro du soir, le touriste sportif ignore la sieste. C'est regrettable, car je peux même plus aller faire la mienne au bord du Tarn sans être dérangé par le touriste qui font du canoë. Bon, allez, une dernière catégorie quand même, le touriste étranger en général et en particulier. Une des particuliers de l'étranger, c'est qu'il n'est pas de chez nous. L'étranger est en général plein de préjugés à notre égard. Il nous pense rancuniers, alors qu'il y a au moins 20 ans que je n'ai pas entendu un commerçant dire « il bouffe comme des cochons, ces boches ». Hein ? Les rosbifs, hein ? C'est quand même pas de notre faute, hein, si un Anglais qui prend un bain de soleil vire au rouge brique. Teint qui leur vaut ce surnom aussi flatteur que le froggy dont ils nous affublent. Non contents d'avoir brûlé Jeanne d'Arc, ils se vantent de nous avoir battus à Waterloo, alors qu'ils avaient Blücher avec eux. Hein. Et en plus, ils se moquent de nous quand leur équipe de rugby nous fout la pâtée. Et pour parachever le tout, ils nous ont acheté la quasi-totalité du Périgord. Et si ça continue, même le foie gras, il sera britannique. Alors, quant aux Hollandais, n'en parlons pas. Hein. C'est par village entier qu'ils nous achètent nos ruines pour trois fois rien. Alors que si on les avait gardées, elles seraient encore à nous. Le Belge, lui, est d'accord avec nous pour trouver que la bière belge est meilleure que la nôtre. L'Allemand et l'Anglais sont unanimes pour se demander pourquoi nous nous obstinons à servir la bière dans des dés à coudre. Les Africains sont rarement des touristes, sauf des fois. Le touriste africain se reconnaît au fait que, quand un policier lui demande ses papiers, il trouve anormal d'être tutoyé. L'Africain local, voire français, a depuis longtemps admis cette coutume, lui. Ces remarques sont également valables pour les Nord-Africains de type arabe, quand ils ont le malheur de ne pas traverser la ville dans une Rolls-Royce, au verre fumé. En France, on vérifie rarement les papiers d'un propriétaire de Rolls-Royce, c'est une coutume parmi les autres. C'est une banalité de dire que le touriste japonais voyage en groupe, caché derrière un appareil photo, et que s'il avait su, il m'aurait envoyé l'appareil, j'aurais fait les photos et il aurait vu la même chose, ça lui aurait coûté moins cher et puis il n'aurait pas été obligé de manger du cassoulet à la baguette, vu qu'il n'arrive pas à se servir correctement d'une fourchette. À part ces quelques détails, le touriste étranger pas de chez nous est quasi comme le touriste français, mais en pire. Donc, il rentrera aussi dans les autres catégories, ce qui ne simplifie pas le problème. Voilà, évidemment, je ne vous ai pas tout dit sur le touriste, parce que j'ai vraiment pas que ça à faire. Et ensuite, parce qu'il serait bien que vous prépariez par vous-même à votre futur emploi, hein, celui que nous prévoit l'Europe, figurant, spécialisé en paysage touristique. Voilà, sur ce, je vais faire la sieste. Bonnes vacances. C'est la saison, les cèpes, tout ça. Et c'est pourquoi j'ai écrit un texte qui s'appelle « La chasse aux champignons ».
Il y a peu, j'ai découvert une activité à laquelle je m'étais jamais livré, ou presque, la chasse aux champignons. Certes, étant gamin, chez Irma, ma grand-mère, il m'était arrivé de m'y adonner, mais il ne s'agissait alors que de champignons mineurs, tels que le rosé des prés, le mousseron ou le coumel. Mais là, j'ai été initié à la chasse au roi des champignons. J'ai nommé le cèpe. Le premier conseil que j'aurais à donner aux chasseurs néophytes est de ne pas confondre la chasse aux champignons avec la chasse au lion, roi des animaux. Entre le cèpe, roi des champignons, et le lion, roi des animaux, il y a comme une différence. En effet, si vous vous retrouvez dans une forêt, un bâton à la main, en train de tirer sur la queue d'un lion, vous risquez de graves ennuis, ce qui n'est pas le cas face à un cèpe, fût-il de Bordeaux. Toutefois, le risque est mince, étant donné que le lion a tendance à vivre dans les régions arides, car l'Afrique est un vieux pays, et aride, alors que le cèpe vit en sous-bois et a besoin d'une certaine quantité d'humidité pour naître et survivre. Ceci étant dit, passons aux choses pratiques de la pratique. Tel le paysan, le jardinier et le marchand de parapluies, le chasseur de champignons en général et de cèpes en particulier voit la pluie d'un très bon œil et en se frottant les mains de plaisir et d'impatience. Il sait que 5 jours après que cette putain de pluie aura enfin cessé de tomber, il pourra se livrer à son activité de prédateur. Et ce, d'autant plus que, contrairement à la baleine, au thon rouge et à l'ours des Pyrénées, le cèpe n'est pas une espèce protégée. Au cours des jours qui suivent, il vérifie son équipement. Ses chaussures, aux semelles assez épaisses pour ne pas s'enfoncer dans les pieds les nombreux débris qui jonchent nos belles forêts, tels que branches pointues, épines diverses, rochers coupants et contondants, morceaux de bouteilles brisées, là j'y reviendrai, et toute cette sorte de choses. Son bâton, ah, essentiel le bâton, il lui sert à se tenir debout dans les endroits difficiles. Ah ben oui, hein, c'est pas plat une forêt. Enfin, du moins vers chez moi. C'est plein de trucs et de machins, ça glisse. Surtout qu'il y a plein de feuilles par terre, de mousse et d'un tas d'autres saloperies qu'on ne trouve pas en ville où on risque que de glisser que sur une merde de chien. Le bâton, il lui sert aussi à écarter les branches qui se font le malin plaisir de lui revenir en plein dans la gueule au risque de lui crever un œil ou de s'agripper dans ses cheveux quand il est comme moi chevelu. C'est vrai que le chasseur chauve ne craint pas ce genre d'inconvénient, mais son sac à dos, et là, il le vérifie aussi parce que si on sait quand on part, on ne sait jamais quand on revient. Lequel sac à dos contient tout ce qui est nécessaire, à savoir de quoi boire et manger, une boussole, une carte de la région, enfin la bonne hein, si possible, son téléphone portable, qui lui servira pas vu qu'il n'y a aucun moyen d'avoir la ligne au fond de cette putain de forêt, du papier cul, des allumettes, qui serviront pas non plus vu qu'il est formellement interdit de faire du feu en forêt, et un tas d'autres machins qui traînent là et dont il ne prend pas la peine de se débarrasser. Contrairement au chasseur moyen, le chasseur de cèpe possède rarement un chien. Ce qui, entre nous,
fait que j'ai un peu de mal à comprendre, moi. On a bien réussi à dresser certains chiens à chasser le cerf, le sanglier, ou le lapin, ou le perdral, voire même des perdreaux, voire même la truffe. Et on n'est pas fichu d'en dresser pour le cep. C'est curieux, ça. C'est... Pourtant, un cep, hein, ça court pas plus vite qu'une truffe, hein. Enfin, je conseille fortement à ceux qui désireraient s'adonner à cette noble activité de se vêtir d'un t-shirt ou d'une chemise ou d'un pull blanc, selon leur degré de frilosité. Parce que, figurez-vous, que dans les forêts, à cette époque de l'année, se trouvent d'autres chasseurs qui, eux, ne viennent pas tirer leur proie par la queue, mais tirent de bonnes grosses cartouches pleines de plomb sur tout ce qui bouge. Et comme nous ne sommes pas en Antarctique, il y a peu de chances qu'un de ces malades vous confonde avec un ours blanc. Ou en tout cas, s'il vous tirait quand même dessus, eh ben, il aurait manifestement tort, ce qui ferait plaisir à votre veuve si vous en laissez une. Bon. Abordons maintenant les techniques de chasse proprement dites. Il faut savoir que le cep se chasse en marchant. La chasse à l'affût est exclue, le cep ne se déplaçant que relativement peu, contrairement au lion. La seule façon, à ma connaissance, de chasser le cep à l'affût étant de pointer son calibre 12 vers le chasseur de cèpes ayant un sac plein et de lui crier d'un air méchant « Les cèpes ou la vie !» Mais cette pratique, elle tombe de plus en plus en désuétude, ce qui prouve que nous nous civilisons de plus en plus. Or donc, le cep se chasse en marchant. Ah, Dieu que c'est fatigant, la chasse aux champignons. Car, comme je le disais plus haut, la forêt, c'est pas plat-plat, hein. C'est même plutôt genre ça monte, ça descend, ça remonte, ça redescend, et que je te dois enfourcher un vieux tronc, ce qui, quand on a les couilles et qu'on n'est pas très grand, est fichrement dangereux, et que je me prends les pieds dans une saloperie de ronces, et que je me rétame dans des trucs qui piquent, tout ça en regardant partout autour, pour tenter d'apercevoir un truc exactement de la même couleur de ce qu'il y a autour. C'est ça, la chasse aux champignons. Ah ben non, la chasse aux cèpes. Alors là, ça devient philosophique. Et alors, vous commencez une longue méditation sur... la vie est mal faite, de tous côtés, vous voyez, des dizaines et des dizaines de magnifiques champignons rouges orangés à pois blancs, enfin le genre de truc que même sans lunettes je risquerais pas de rater, qui ont la fâcheuse idée d'être mortels, alors que le cep, hein, celui que vous recherchez, est de la même couleur que les feuilles mortes dont le sol est jonché. Ah, il y a de quoi râler. Et après, on ira me dire que la vie est bien faite. Bref, 3 heures et 4 champignons plus tard, vous êtes crevé, les jambes vous font mal, vous avez la dalle, et votre soif est telle que pour un peu vous boiriez de l'eau. Il est temps de s'accorder un repos bien mérité. Vous vous choisissez un coin sympa, avec de la mousse, évitez les fourmilières, hein, si vous pouvez, et vous vous installez. Vous sortez de votre sac vos victuailles, saucisses, pâtés, œufs durs broyés que vous aviez mis bêtement au fond du sac, fromage ou dessert, hein, car vous avez choisi le menu mesquin, évidemment, et surtout la bouteille de rouge. Et c'est là qu'est née au fin fond de mon cerveau l'idée géniale que je vais vous livrer. Tout chasseur digne de ce nom connaît les appôts, hein ? C'est pas les canards qui vont me contredire. Alors pourquoi n'existerait-il pas un appôt à cep ? Le cep que je chasse est le cep de Bordeaux. Et ma bouteille aussi
elle est de Bordeaux. Mais par Saint-Émilion, bon sang, mais c'est bien sûr. Aussitôt pensé, aussitôt fait. Au fur et à mesure que je vide cette bouteille, je sens que l'euphorie qu'a fait naître cette idée ne cesse de grandir. Lorsque la bouteille est enfin vide, il suffit d'appliquer la lèvre inférieure au bord du goulot de la dite bouteille, de souffler tel le joueur de flûte traversière pour entendre le cri d'amour du cep. Il est évident que pas un cep digne de ce nom ne doit pouvoir résister à ce bruit qui se rapproche singulièrement du barrissement, qui, je vous le rappelle, en passant, est le cri de l'éléphant. Et ça marche. La preuve, quand je me suis remis en marche, j'ai vu deux fois plus de champignons que je pouvais en cueillir. Alors, un dernier conseil, hein, peut-être. Si vous voyez de gros champignons roses avec de grandes oreilles et une trompe, c'est que vous avez forcé sur la peau. La prochaine fois, prévoyez une bouteille plus petite. Un tout dernier conseil aussi. Lorsque vous rentrez chez vous le surlendemain, inscrivez-vous d'urgence à un cours de survie et d'orientation. Achetez vite fait le dernier modèle de GPS et ainsi vous serez prêt pour votre prochaine expédition. Ah, un regret aussi. Une fois transformé en trophée, la tête du cep est beaucoup moins valorisante que la tête du lion. En effet, alors qu'il s'était montré ébahi et dithyrambique sur la tête de lion que ce comte Marcel avait soi-disant chassé en Afrique, eh ben mes copains, ils ont que très peu vanté mes talents de chasseur quand je leur ai fait admirer ma tête de cep. Mais peut-être que si j'avais osé cueillir le gros cep rose avec la trompe et les oreilles, ça aurait été différent. Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je dis un grand merci à Stéphane qui était derrière la vitre. Et à vous, je dis comme d'habitude, à la prochaine fois, même endroit, même heure.